14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Cette photo, c'est la dernière photographie du groupe de Dyatlov. Elle a été prise le soir de l'incident. On les voit en train de creuser une coupe dans le manteau neigeux afin de créer une plateforme pour installer leur tente. Et donc, malheureusement, voilà, c'est la dernière photo de vivants qui existe.
Bonjour, il y a 65 ans, une nuit de janvier 1959, 9 étudiants russes trouvaient la mort lors d'une randonnée dans le décor enneigé et glacial de la Sibérie. Un drame officiellement attribué à la mauvaise météo, mais qui, dès les premières heures, a pris l'allure d'une spectaculaire énigme. Sur place, la scène d'accident ressemble en effet à s'y méprendre à une scène de crime. Des victimes retrouvaient le crâne fracassé, dépouillé de leurs vêtements, des visages de couleur brunâtre. Seule certitude, les étudiants ont fui un danger imminent au point de partir pieds nus dans l'épaisse couche de neige. Mais quel danger ! Les enquêtes officielles, privées, vont se multiplier pour éclairer ce massacre. Toutes les théories vont se succéder, d'une bavure militaire à des vents mortels en pensant par ces étranges lueurs oranges aperçues dans le ciel. Le secret défense et le silence des autorités russes ne vont que renforcer les doutes. Mais que s'est-il passé dans cette montagne perdue ? Question posée à nos invités.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Dans l'heure du crime, aujourd'hui, l'un des plus grands mystères de l'histoire criminelle, l'affaire du col Dyatlov. À l'hiver 1959, 9 jeunes randonneurs se lancent dans une expédition dans une montagne au nord de la Sibérie. Le temps est au beau fixe, l'ascension facile, mais ce paysage va se refermer sur eux. Vendredi 23 janvier 1959, 9 étudiants et un professeur de sport de l'Institut Polytechnique de l'Oural, à Ekaterinbourg, sont sur le pied de guerre. Jour de départ vers le Grand Nord. Depuis des semaines, ces 8 hommes et ces 2 femmes, entre 20 et 38 ans, préparent cette randonnée à ski et à raquettes. Objectif, le mont Otorten, une montagne pas très élevée, 1100 mètres d'altitude, mais dont les pentes raides sont, en cette saison, couvertes de 2 à 3 mètres de neige. Les étudiants, ingénieurs, tous très sportifs, rompus à de longues marches, ne craignent pas cette aventure qui doit durer 2 bonnes semaines. C'est Igor Dyatlov, jeune homme blond de 23 ans, promis à une carrière dans l'armée, qui fait figure de chef d'expédition. Il ne sait pas encore qu'il va donner son nom à un col dont personne ne va revenir, le col Dyatlov. Le trajet commence par une nuit en train pour rejoindre la bourgade d'Ivdel, puis des kilomètres en camion sur des routes enneigées et verglacées pour approcher les contreforts de l'Otorten. La longue marche peut alors commencer. 28 janvier, 5 jours après le départ, Yuri Yudin, 21 ans, immobilisé par une sciatique, ne peut plus avancer, il abandonne. On le laisse se reposer dans un hameau où l'on dépose aussi des vivres et des vêtements secs qui serviront au retour. 2 jours plus tard, 31 janvier, l'ascension de la montagne commence. Le journal de bord, retrouvé plus tard, décrit une nuit calme. Nous sommes épuisés, on mange dans la tente, c'est bon et on a chaud. Comment imaginer un tel confort à des centaines de kilomètres de toute habitation ? Tout va bien, écrit, amusé, Igor Dyatlov. Dimanche 1er février, les randonneurs sont désormais à 25 kilomètres du mont Otorten. Le temps clair et clément tourne brutalement. Des bourrasques très puissantes de blizzard commencent à balayer le paysage. La visibilité baisse et le groupe commence à perdre ses repères. La marche dévie légèrement en direction de la montagne des morts, surnommée ainsi par les Mansi, l'ethnie qui peuple ce coin désolé. À 17h, Igor Dyatlov s'aperçoit que le groupe fait fausse route. Pas question de continuer. Dans l'urgence, il est décidé d'installer la grande tente, à même la pente. Dyatlov ne voulait certainement pas repartir en arrière après une longue journée de marche, ou alors il s'est dit qu'il serait intéressant de camper sur une pente, commentera en 2008 Yuri Yudin, l'étudiant rescapé qui avait renoncé à l'ascension. À partir de cette nuit-là, plus personne ne va avoir de nouvelles des étudiants. Jeudi 12 février, le directeur du club sportif de l'Institut Polytechnique s'interroge sur le silence des randonneurs. Igor Dyatlov devait envoyer un télégramme autour du 12 sur le chemin du retour depuis la ville de Vizaï, mais rien n'arrive. Pas d'inquiétude majeure. L'étudiant avait prévenu que l'expédition aurait peut-être quelques jours de retard. 20 février, l'alerte est donnée. Une équipe de reconnaissance qui rassemble des étudiants et des professeurs se met en route. L'armée est avertie. Le colonel Ortiukov mobilise 22 militaires qui appartiennent à l'administration pénitentiaire. 23 février, alors que le temps s'est remis au beau fixe, un hélicoptère de l'armée se pose au pied des pentes du mont Otorten. 2 jours plus tard, des traces de passage de ski sont repérées. Elles partent en direction de la montagne des morts. 26 février, la tente des étudiants est retrouvée. Elle a été lacérée de l'intérieur, comme si les occupants devaient à tout prix en sortir, et le plus vite possible. Aucune trace d'avalanche. Autour de la tente, les militaires tombent sur les affaires disséminées des randonneurs, parka, ski, pantoufles, hache, couteau. La panique semble s'être emparée du groupe, même si une autre tente où sont stockées des provisions, 2 paires de chaussures et une mandoline est intacte. Des traces de pieds nus surgissent dans la neige. Les militaires inspectent le coin. Ils vont rapidement faire de macabres découvertes. Vendredi 27 février 1959, autour de 11h du matin, les militaires qui suivent les traces de pas dans la neige notent qu'elles disparaissent après 250 mètres de marche. Ils poursuivent tout de même leur route en direction d'un bois de pins à un peu plus d'un kilomètre. Ils repèrent une tache sombre au pied d'un immense pin. Il s'agit des restes d'un feu. Quelqu'un a escaladé le tronc de l'arbre jusqu'à 5 mètres de hauteur pour s'y réfugier ou couper au couteau les branches les plus fines afin d'alimenter le foyer. Aucun couteau retrouvé. À 3 mètres de là, un premier corps gît dans la neige. C'est celui de Yuri Doroshenko, 21 ans, en linge de corps, pieds nus. Il est comme congelé. À côté, Yuri Krivonichenko. Il ne porte qu'une chaussure au pied gauche. Ses doigts sont déchirés. Il a du sang sur plusieurs parties du corps. Dans la même zone, à 300 mètres du Grand Pin, un sauveteur découvre le corps d'Igor Diatlov. Allongé sur le dos, le visage en direction du camp, il tient une branche dans sa main. Son manteau est déboutonné. Il ne porte pas de chaussures, mais de simples chaussettes dépareillées, une en laine, l'autre en coton. 180 mètres plus loin, Rusten Slobodin et Zina Kolmogorova. L'une des deux filles sont allongées, le garçon a le crâne fracturé. Zina est habillée un peu plus chaudement, elle porte un masque de protection militaire à la ceinture. Enquête ouverte, région aussitôt interdite d'accès par les autorités. Lundi 4 mai, 3 mois après la découverte des premières victimes, 4 derniers cadavres sont extirpés dans un ravin sous une couche de 4 mètres de neige. Des morts jugées suspectes. Les victimes portent des habits disparates qu'ils se sont échangés. Nicolas et Thibaut Brignol a le crâne fracassé. Il a 2 montres à son poignet gauche, la sienne et une autre qui appartient à un camarade. Dans le même fossé, Alexandre Zolotarev est retrouvé. La cage thoracique enfoncée, 5 côtes cassées, les yeux absents. Crâne fracturé pour le 4e. La randonneuse Ludmila Dubinina, la benjamine du groupe, 20 ans, a 10 côtes brisées. Ses yeux ont disparu, tout comme sa langue qui semble avoir été arrachée. Autant de traumatismes sur lesquels s'interrogent les légistes. Selon eux, les morts ont été violentes, mais ils ne peuvent les expliquer. Certaines victimes ont les mains brûlées. Les premiers médecins excluent une avalanche. Elles étaient, ces blessures, comparables aux effets d'un accident de voiture, note à l'époque le médecin légiste. Les autorités soviétiques ne souhaitent donner aucun écho à cet étrange massacre. Les circonstances de la panique qui s'est emparée du groupe ne sont pas expliquées. L'hypothèse de prisonniers en cavale qui s'en seraient pris aux randonneurs est exclue, tout comme une attaque des Mansis qui veillent jalousement sur leur territoire. Et la montagne des morts, leur premier village est à 100 km de là, et ces éleveurs ne viennent jamais dans cette région en hiver. La présence de tierces personnes sur la montagne est exclue. Les rapports médicaux indiquent que les randonneurs sont morts entre 6 à 8 heures après leur dernier repas. Ils sont tous sortis en même temps de la tente. Les causes du décès seraient l'hypothermie. Fin mai 1959, 3 mois après le drame, l'enquête est bouclée, dossier classé. Le procureur de la région de Sverdlovsk écrit « Il convient de considérer que la cause du décès fut une force spontanée à laquelle les touristes n'étaient pas à même de résister. » Et si les randonneurs avaient fui tout simplement devant une explosion ? Lundi 9 mars 1959, une semaine seulement après la découverte des corps, les cinq premières victimes du col Diatlov sont inhumées, enterrement suivi par des centaines de personnes. Les cercueils ouverts laissent voir des visages boursouflés et blessés. Tout le monde s'interroge sur la couleur brune orangée de la peau. Impossible de savoir si cette apparence a un lien avec la découverte de radioactivité sur les victimes. Dans un rapport tenu secret, l'inspecteur chargé de l'enquête, Lev Ivanov, mentionne la présence de radioactivité. Il raconte que le compteur Geiger s'est affolé alors qu'il faisait le tour du campement. Information qui va nourrir l'hypothèse d'un incident de type militaire dans le secteur, un tir de missile ou l'explosion d'un ballon sonde qui renfermait un contenu toxique. La première base aérienne est toutefois à 600 km du col Diatlov. Aucun tir balistique n'est répertorié dans les archives militaires. L'étudiante Ludmila Dubinina manipulait certes des éléments à teneur radioactive au laboratoire de l'Institut Polytechnique, mais elle n'a pas pu entraîner une telle contamination. Des années plus tard, l'inspecteur Ivanov va raconter que des témoins avaient signalé la nuit du drame la présence de sphères volantes orangées dans la région. Ces témoins parlaient de disques lumineux aux flashs aveuglants. Dans une interview à un journal kazakh, l'enquêteur dira plus tard « Je soupçonnais à l'époque que ces sphères volantes étaient liées à la mort de ces gens. J'en suis presque sûr aujourd'hui. » 60 ans après, la justice russe va rouvrir le dossier. Vendredi 1er février 2019, le procureur général de la région fédérale de l'Oural annonce que les autorités rouvrent le dossier du col Diatlov. Toutes ces années, les familles de victimes n'ont jamais cessé de dénoncer l'inertie de la justice. Pas moins de 30 experts sont mandatés pour plancher sur toutes les hypothèses. Après un an et demi d'investigation, 11 juillet 2020, la justice annonce que l'explication la plus vraisemblable et qui doit être retenue est celle de l'avalanche. Les randonneurs apeurés auraient quitté précipitamment leur tente pour tenter de se mettre à l'abri dans un bois voisin. Les blessures pourraient correspondre à un écrasement de certains corps sous la neige, même si les experts sont partagés. Car les étudiants sont parvenus jusqu'au bois, 1,5 km parcouru, parfois pieds nus. Une grosse avalanche les aurait rattrapés, bien avant. En 2013, un documentariste américain affirmait que la topographie du mont Thorten était le théâtre d'un phénomène naturel rare. La présence de vents violents qui produisent à certains endroits des infrasons, des vibrations sonores de très basse fréquence qui sont insupportables pour l'oreille humaine, une douleur qui aurait contraint les étudiants à fuir au plus vite leur tente sans chercher à comprendre ce qui leur arrivait. Mystère, mystère, pour les familles, une recherche sans fin de la vérité. Malgré la réouverture du dossier en 2019-2020 et le complément d'enquête dans l'affaire du col Diatlov, les familles et les proches des 9 disparus n'ont jamais cessé de demander des explications. Ils ont toujours le sentiment que quelque chose leur a été caché, avait reconnu un porte-parole du parquet général russe. Au fil des années, les enquêteurs disent avoir examiné au total 75 théories. Aucune d'entre elles ne s'est vraiment imposée pour que la vérité soit faite sur les 9 morts dans la montagne.
La réponse à la question « Pourquoi les membres du groupe Diatlov sont-ils morts ?» est cachée dans le fait qu'ils ont tenu toute cette histoire secrète pendant 50 ans. Et celui qui veut répondre à cette question doit aussi répondre à la question « Comment sont-ils morts ?»
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.